bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous allons commencer en allant faire un petit tour en Italie aujourd'hui, en profitant du fait que Gianni a voyagé récemment et a suivi la situation d'un peu plus près que nous en général. Et on va essayer de comprendre ce qui s'y passe, puisque c'est un pays qu'on nous présente aujourd'hui comme étant agité par des fausses forces obscures. Gianni va essayer de nous faire comprendre de quoi ça retourne. Bon, Gianni, est-ce que tu penses que l'Italie est sur une voie extrêmement inquiétante? Est-ce que les forces fascisantes sont à l'œuvre en Italie actuellement?
Force fascisante, d'une certaine façon, il y en a. Il y a pas mal de journaux, entretiens, livres, articles qui nous parlent de l'Italie comme d'un pays qui est en proie à un nouveau fascisme. Or, moi, j'ai l'impression que on est vraiment dans un contexte un peu différent que celui dont relève le fascisme. J'ai même l'impression que dans nos milieux en particulier, il y a une espèce de tendance qui consiste à noircir la situation comme si partir d'une analyse de ce qui existe, et ce qui est parfaitement détestable par ailleurs, ne suffisait pas à se battre contre cette situation pour la changer. Ou comme si le fait de se trouver en face d'une situation répressive telle que celle qu'on avait connu dans les années 20 sous le fascisme, justifiait quelque part l'impuissance des forces qui essaient de se battre contre les gouvernements actuels.
Tu veux dire qu'on a un même niveau de répression et que...
Ben justement, non. Et je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'était que le fascisme, en termes de répression, justement. Ça n'a rien de comparable avec ce qui existe aujourd'hui. J'ai trouvé un petit texte extrait d'un livre de Armando Borghi, qui était le secrétaire de l'Union syndicale italienne, l'équivalent de la CNT, pour faire court. C'était une organisation anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire qui s'était formé en Italie à partir de 1911 et qui a une place très importante dans les occupations d'usines, dans les luttes qui ont eu lieu dans les années rouges 1918-1919 et dans la lutte contre le fascisme naissant. Et Armando Borghi était à l'époque le secrétaire général de cette organisation. Et ensuite, il est obligé de partir à l'étranger, en France notamment, dans sa première partie d'exil, et il écrit un bouquin qui s'appelle « L'Italia fra due Crispi », Crispi étant l'ancien premier ministre de l'État post-unitaire, qui avait été extrêmement répressif, et qui était quelque part qui était devenu le terme de comparaison du niveau de répression de l'époque. Évidemment, le fascisme dépassera le niveau de répression fourni par Crisp, mais à l'époque où Bourgui écrit, c'est encore le terme de comparaison le plus fort pour ce qui concerne la répression. Et dans ce livre, il nous fournit une description qui est quand même assez saisissante. D'ailleurs, si tu veux bien la lire, parce que tu lis nettement mieux que moi.
Oui, donc je lis le passage en question. Il m'est arrivé, en discutant avec des camarades étrangers, d'user pour mieux leur faire comprendre les événements qui ont emporté le prolétariat chez nous, qui fait allusion donc à l'installation du fascisme, de l'illustration suivante. Supposez qu'il y ait une invasion militaire et imaginez A. Que le gouvernement du pays envahi et toutes les ramifications du pouvoir punissent la révolte contre l'envahisseur comme un délit. B. Que l'armée envahissante avance sur le territoire d'occupation en s'attaquant non pas à l'ensemble des citoyens, les contraignant ensemble à la rébellion, mais uniquement à la classe ouvrière. C. Qu'au lieu d'une armée régulière, responsable devant un État et défendant des lois, bonnes ou mauvaises, mais ayant en somme pour rôle de mettre en place un régime, il s'agisse de bandes de malfaiteurs ivres de haine et de sang, mêlés à des fanatiques qui mettent dans leur violence toutes les cruautés des guerres de religion. D. Qu'aux envahisseurs se mêlent les gens du lieu qui les ont appelés à venir, si bien qu'aux haines de nature politique s'ajoutent les haines féroces des rivalités paysannes, d'intérêt ou même d'amour. F. Que l'envahisseur mobilise une commune entière pour terroriser une paroisse, une province pour terroriser une commune, un groupe de provinces pour terroriser une province, et enfin toute la nation, roi compris, quand il veut prendre Rome. G. Que, pan par pan, l'envahisseur soumette sur tout le territoire à une battue, sans épargner le moindre mètre carré, donnant la priorité à la campagne ou à la ville selon les avantages politiques et stratégiques du moment, qu'il dispose en permanence de toutes les facilités, de tous les moyens nécessaires pour faire ses plans, s'armer et s'équiper, se saisir des moyens de transport militaire, utiliser sans restriction le réseau de chemin de fer de l'État pour transporter des troupes en masse, s'installer dans les théâtres, les écoles, les églises, les mairies, instruire des procès en rétablissant la torture, destituer des préfets, des juges et des maires, et les rosser s'ils font preuve d'hostilité, qu'ils fassent subir ces représailles sauvages à la famille, aux femmes et aux enfants, à leur maison et leurs biens, que de surcroît ils soient sûrs de trouver en arrivant des localités déjà toutes perquisitionnées par la police régulière, et en partant de voir la répression judiciaire s'abattre sur ses victimes, fort lui-même de l'impunité la plus totale après l'invasion et la dévastation. Imaginez pareil enfer et dites-moi.
Or, de toute évidence, la situation aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec ce que décrivait Bourgui en 1924. Il n'y a pas le climat de guerre civile qu'il y avait eu juste avant le fascisme et durant l'installation du fascisme. Il n'y a pas eu de tentative révolutionnaire comme en 1918-19 qui justifierait l'utilisation du fascisme par les capitalistes. Et si on peut parler de crise de l'État libéral, pour l'instant, elle n'est pas due à l'action autonome du prolétariat, comme on a pu voir après la Première Guerre mondiale.
Alors elle est due à quoi ?
Attends, encore juste un mot. Moi, je dirais que le fascisme au pouvoir se caractérise aussi bien par un niveau extrême de répression, ça on l'a vu pour sa mise en place, mais aussi pour les 20 ans qui constituent la durée de son pouvoir, et la répression contre toute forme d'opposition. Mais aussi une forme massive d'intervention de l'État dans l'économie du pays. Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'État essaye plutôt de se défaire des biens, des responsabilités qu'il a dans les entreprises, etc., y compris dans l'État italien. il n'y a pas une structure dictatoriale du pouvoir, il n'y a pas une mobilisation des masses et un encadrement de ces masses, comme ça a été le cas avec les organisations féminines, de jeunesse, professionnelles, syndicales, etc., qui structurent le corps social sous le fascisme. Et surtout, je crois que c'est le dernier facteur dont il faut tenir compte, pour déloger le fascisme au pouvoir, il a fallu une guerre mondiale, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne. Or, même si les anciens fascistes qui étaient arrivés au pouvoir en Italie, les gens de ce parti qu'on appelait l'Alliance Nationale, qui avait été dédouané par le Berlusconi, mais aussi la Ligue du Nord, bon, ils ont accepté l'alternance entre guillemets démocratique sans trop rechigner, même quand ça ne les arrangeait pas. Donc, or, moi j'ai l'impression qu'il faut, quand on donne un jugement de ce type-là, baser.
Quand on parle de fascisme,
S'appuyer sur les données, les faits existants, et pas sur une image fantasmatique du fascisme.
Bon, voilà. Là, tu nous as un peu rafraîchi la mémoire, Gianni, je veux dire, en revenant sur la réalité du fascisme en Italie. Mais là, dans le cas actuel, bon, tu as parlé, par exemple, de crise de l'État libéral. C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les facteurs
Bon, c'est une crise qui est quand même assez différente et qui ressemble beaucoup aux crises qu'on connaît dans différents pays d'Europe, France y comprise. Mais moi, j'ai l'impression, je vous donnerais vraiment une impression, comment dire, très, très simple. Plus qu'un gouvernement fasciste ou plus qu'un climat psychologique imprégné de fascisme, moi je dirais qu'il y a beaucoup de xénophobie, ça c'est vrai. On pourra voir éventuellement quels sont ses ressorts. Et plus qu'un gouvernement de fascistes, cela ressemble à un gouvernement qui exprime les tensions du café du commerce, qui sont parfois particulièrement détestables et puantes, mais qu'on peut combattre. Et surtout, on peut combattre par des moyens qui sont différents que ceux qu'on utiliserait s'il y avait un gouvernement fasciste ou qui sont utilisés encore aujourd'hui par les antifascistes institutionnels ou même militants et radicaux. Donc, il y a cet aspect des choses dont il faut, je crois, tenir compte assez fortement.
D'accord, mais quelles sont les raisons pour lesquelles cet état d'esprit a fini par s'imposer, à créer un climat, bon, un climat de xénophobie, un climat que bon, certains...
Il y a plusieurs choses, mais moi je voudrais m'attarder un tout petit peu pour rappeler les grandes lignes de la situation italienne d'aujourd'hui. On revient aux élections législatives du 4 mars 2018. Et il y a un taux de participation qui est de moins en moins important. Je crois que c'est le taux de participation le plus bas qu'il y a eu depuis 1945. On arrive à 73%. Il faut se rappeler que l'Italie est un pays où le vote était autrefois obligatoire et les gens fournissaient un taux de participation très élevé. Ces élections ont été un véritable référendum contre le gouvernement de Renzi et sa politique.
Rappelle-nous que Renzi était le parti démocrate héritier du PC.
Voilà, hérité du PC en partie, mais hérité du PC et de la démocratie chrétienne et ses méthodes aussi en partie, clientélaire, parfois assez autoritaire. C'est un mélange des deux, et même si dans l'imaginaire des commentateurs, le PD est présenté comme le parti de centre-gauche. Hein. Or, ce parti ne fait que 17%. Il avait été fortement majoritaire dans la législature précédente, et la coalition dont il est le cœur arrive à 18,5%. Il en sort pratiquement laminé. Le premier parti, à ce moment-là, est le mouvement 5 étoiles, qui fait presque 36%. Et ce parti est considéré un peu par tous les commentateurs comme europhobe, anti-système, et ce parti a réussi à récupérer les voix qui allaient traditionnellement à la gauche, mais il ne peut pas gouverner tout seul parce qu'il n'a pas une majorité absolue. L'alliance de droite est en revanche majoritaire. Elle a 41,5%. Mais elle n'a pas non plus la majorité absolue. Ce qui fait qu'on aura des mois et des mois de tractations, de marchandages dans les couloirs, jusqu'au moment où le mouvement 5 étoiles trouve un accord avec un parti qui composait l'alliance de droite, la Ligue du Nord, qui abandonne les néofascistes qui venaient de l'Alliance nationale, mais qui avait changé de nom, et le parti de Berlusconi, Forza Italia, qui se retrouve de fait totalement marginalisé. Or, le président du Conseil sera un homme de confiance des deux partis qui vont au pouvoir et qui essaiera un peu de jouer le rôle de médiateur entre la carpe et le lapin que ce gouvernement représente. Moi, je pense qu'il faudrait quand même dire un mot sur ce que c'est que ces deux partis.
Oui, d'ailleurs, revenons sur le mouvement 5 étoiles. Bon. Parce que c'est un mouvement qui a été, donc tu l'as dit toi-même, qui a été présenté comme anti-système. Évidemment, tout le monde s'est étonné que ce parti qui voulait la peau de la classe politique en place se mette à finisse finalement par faire une alliance avec un parti de droite extrême.
Bah ben, voilà.
Comment on en arrive à cette situation?
Bon, je pense qu'il faut rappeler juste quelques étapes de la formation de ce parti. C'est un parti qui est récent, il est fondé en 2009 par un humoriste, Beppe Grillo, et il se présente comme ni de droite ni de gauche, mais il agite des thèmes à caractère sociaux qui ont attiré souvent, très souvent, un électorat issu de la décomposition de la gauche traditionnelle, notamment le PC, mais aussi l'ancien PS, les groupuscules autrefois extra-parlementaires. Et il s'est développé très rapidement sur la base de thèmes justicialistes, c'est-à-dire la critique de la corruption et l'inefficacité du système politique existant. Il a obtenu des succès électoraux et parfois même des bons résultats dans la gestion de plusieurs grandes villes, Turin par exemple. Disons que la démocratie interne ne semble pas vraiment le meilleur de ses atouts parce qu'il fonctionne d'une façon très, très, très verticale avec une relation presque directe entre la base électorale et le groupe dirigeant. Fonctionne par internet de fait. Ces députés ont été recrutés vraiment sur CV par internet. Moi, je dirais, d'un certain point de vue, ressemble un peu à certaines pratiques d'En Marche en France aujourd'hui, même si les contenus de sa politique ne sont pas forcément les mêmes. Et il faut dire que l'absence de mouvements sociaux d'envergure dans les 30 dernières années ont favorisé d'un côté le pourrissement des vieilles structures politiques, mais aussi l'émergence d'un parti qui promet, par exemple, un revenu de citoyenneté, un revenu de base. Bon, il a en plus ce revenu a changé de nom plusieurs fois, sans avoir besoin de lutter, simplement en glissant un bulletin dans l'urne. Et ben, évidemment, il y a des tas de gens qui disent bah oui, finalement, pourquoi pas, on va quand même essayer. C'est une promesse.
Qui explique son succès, notamment dans l'Italie du Sud.
C'est ça. Un succès qui vraiment en fait un tabac. Sa base de masse dans l'Italie du Sud touche une moyenne de 40-50% des voix. Et à certains endroits, il a touché des pointes jusqu'à 60-70%. Or, ces promesses, qui sont fondées sur un programme de type keynésien, c'est-à-dire remise en marche de la dépense publique et financement des ménages, le mettent directement en porte-à-faux avec les règles de l'Union européenne qui sont plutôt fondées sur l'idée de l'austérité budgétaire. Et ça, je crois que c'est un premier point dont il faudra tenir compte dans notre réflexion.
Bon, mais il y a un autre parti, donc il faut... Le deuxième pilier de l'Alliance.
Le deuxième pilier de l'Alliance, c'est la Ligue du Nord, qui est, et ça il ne faut pas l'oublier, est d'abord et avant tout un parti autonomiste et séparatiste même, qui prônait l'idée de se relier à la Mitteleuropa et
l'Europe
centrale, et voulait, comme il disait, arrêter de payer pour le sud de l'Italie, qui était, d'après eux, composé d'assistés qui ne faisaient que pomper les finances du Nord.
Et en plus, complètement investi par la mafia, ça fait partie du discours, ou pas?
Oui, investi par la mafia, mais bon, le problème est que ils indiquaient la mafia comme quelque chose qui gangrenait le Sud. Jusqu'au jour, relativement récent, où ils ont dû constater que les municipalités, en bonne partie, et les villes, les grandes villes du Nord, étaient aussi elles-mêmes gangrenées par la mafia, qui s'était tout simplement étendue du point de vue à la fois des méthodes, mais aussi des liens qu'elle avait su construire dans le nord de l'Italie. Alors, ce parti a participé à plusieurs gouvernements avec...
La Ligue du Nord, donc.
La Ligue du Nord, à plusieurs gouvernements avec Berlusconi et les anciens néofascistes de l'Alliance nationale. C'était assez drôle à cette époque parce que Berlusconi tenait ensemble un parti fortement nationaliste comme l'Alliance nationale et un parti fortement autonomiste ou séparatiste comme la Ligue du Nord. Et avec des bases sociales qui étaient assez différentes. Mais bon, il a réussi effectivement son coup parce que il a tenu ensemble ses forces politiques et sociales pendant presque 20 ans. Alors, son discours, le discours de la Ligue, qui était ultra-moralisateur contre ce qu'ils appelaient Rome voleuse, n'empêchera pas ensuite son ancien chef, qui s'appelait Umberto Bossi, de se faire prendre les mains dans le sac au moment où il a utilisé l'argent du parti, qui était issu du financement public, pour retaper sa maison. On pourrait dire vraiment un petit voleur de poule face au scandale financier assez important qui avait caractérisé les gouvernements et les époques précédentes.
Ça a suffi quand même à éliminer M. Bossi comme, en tant que chef du parti,
voilà,
et à
ça,
ouvrir la place.
Ça a suffi d'un côté pour produire une forte crise dans la base électorale de la Ligue, dont les consensus électoraux étaient tombés au plus bas, et ensuite pour changer le groupe dirigeant. C'est M. Salvini qui récupère la direction du parti, mais qui en profite aussi pour le transformer. Le discours politique de la Ligue est de moins en moins autonomistes et régionalistes et de plus en plus nationalistes au niveau national, au point que aux dernières élections, même si sa base de masse reste dans le nord de l'Italie, dans le centre-nord on pourrait dire, il se développe aussi dans le centre-sud. Et ça, c'est un élément de nouveauté assez important, parce que il y a des sections de la Ligue qui voient le jour en Sicile, en Calabre, dans les Pouilles, dans la, oui, dans la région de Naples. C'est ce qui est vraiment caricatural, parce que jusqu'au jour avant, tous ces gens-là étaient considérés comme des feignants, des poids morts que la Ligue, ouais, que le Nord faisait vivre. Non, et que... considérés pratiquement comme, quasiment comme des immigrés au même niveau.
Oui, ça veut dire que enfin, la Ligue du Nord draine un peu les éléments les plus autoritaires. Enfin, il y a quand même une tradition autoritaire aussi dans le Sud, c'est tel qu'il a...
Il draine les éléments autoritaires, mais bon, il ne faut pas oublier non plus l'existence d'un parti néofasciste qui s'appelle Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, dont le nom est repris de l'hymne national et qui viennent de l'ancienne Alliance nationale. Ça, c'est des néofascistes, comment dire ?
Assumés.
Moi, je dirais que la Ligue de Salvini est fascisante de par ses méthodes, mais ou par son absence d'idéologie vraiment définie, dans le sens que tout est bon pour arriver au pouvoir. Hein. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la Ligue, avec son idéologie xénophobe, et c'est ça une des caractéristiques importantes de ce parti, répond à certaines des pulsions de fond de l'Italie d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Italie des années 2000, 2010 ou 2020, d'aujourd'hui quoi, est désormais un pays qui est majoritairement peuplé de vieux. Après le Japon, est le pays avec le plus grand pourcentage de vieux.
Oui, mais tu veux nous dire que les vieux sont xénophobes plus que les jeunes ?
Non, mais ils ont peur. Les vieux ont terriblement peur, même s'ils ne sont pas particulièrement, à l'origine, ils ne sont pas particulièrement xénophobes.
Ils ont peur de quoi ?
Ils ont peur de tout. Ils se retirent chez eux, ils se protègent de toutes les façons possibles, ils se barricadent chez eux, et vraiment tous les courants d'air ne peuvent que les déstabiliser. Moi je dirais que c'est exactement l'inverse de ce qui se produisait à l'époque du fascisme, où on cherchait à construire un empire, et il y avait des troupes qui partaient pour l'Albanie, pour l'Afrique, pour la Grèce. On cherchait une place au soleil dans le concert des nations, comme on disait, aussi pour la petite Italie qui était un peu la dernière arrivée et dont on parlait comme la grande prolétaire, la grande nation prolétaire qui s'était enfin réveillée. Or, ces sentiments d'insécurité qui émanent des vieux s'étend un peu à toute la population et se fixe notamment sur les immigrés.
Alors justement,
c'est quand même un élément assez important, parce que la question de l'immigration est traitée comme une source d'insécurité à partir du moment où le pays devient un pays d'immigration, c'est-à-dire à partir du début des années 90, 92 pour être précis, quand les premiers bateaux d'Albanais arrivent dans les ports de l'Adriatique, pleins de jeunes qui fuient l'Albanie, qui était une espèce de prison de l'époque, et qui arrivent et qui se répandent dans le pays. Et comme toutes les immigrations, sont constitués en bonne partie de jeunes, mâles. Ouais. Et il y a une association entre immigration et insécurité qui est aussi en partie fournie par la population. Il y a une donnée dans la population carcérale, par exemple en Italie. Aujourd'hui, il y a environ 57 000 détenus adultes, dont 38 000 sont de nationalité italienne. Les autres, c'est-à-dire presque un tiers, sont de nationalité étrangère.
Et non, mais est-ce qu'on peut revenir juste un moment? Tu parlais d'une immigration albanaise, mais une de ses caractéristiques, c'était une immigration qui s'est imposée et qui n'était pas une immigration de travail. C'est aussi pour ça que ça a créé cette espèce de sentiment d'insécurité. Alors que l'immigration d'aujourd'hui, c'est un corps différent. Là, tu nous cites des chiffres qui concernent les immigrés détenus. Est-ce que c'est encore en majorité des Albanais? Non,
c'est pas que des Albanais, évidemment. Les Albanais, déjà, sont une goutte d'eau dans la mer de l'immigration qui a touché l'Italie. Et surtout, il faut se rappeler que l'Italie est un lieu de passage de l'immigration qui vient du sud du monde, grosso modo, et notamment de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique de la Corne d'Afrique, où il y avait des anciennes colonies italiennes, sans compter tous les réfugiés qui fuient des guerres, notamment au Moyen-Orient, et qui trouvent des lieux de passage, notamment à partir de la Libye. Or, déjà, il faut rappeler que cette immigration n'est pas très différente dans la perception des choses des autochtones de ce qu'était l'immigration italienne elle-même dans les années 20 et 30 aux États-Unis, où tous les Italiens étaient rangés souvent sous la rubrique mafieux. Ben, tout simplement parce qu'il y avait une partie relativement importante de cette immigration qui était constituée effectivement de jeunes mâles qui s'adonnaient à la criminalité, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de survie et faisaient partie de réseaux de délinquance qui étaient en bonne partie issus des lieux d'origine.
C'est encore l'historien qui fait des rapprochements, mais dans la tête des gens, est-ce que les gens ont encore conscience?
Non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas conscience. D'ailleurs, ils disent ah non, tous ces immigrés ne sont pas comme nos immigrés à nous, qui étaient autrefois, nos immigrés à nous étaient des travailleurs. Et d'ailleurs, ils ont tendance à se rappeler plutôt, à citer l'émigration qui allait vers le nord de l'Europe et qui a fourni pas mal de mineurs en Belgique ou dans la France du Nord ou d'ouvriers dans les usines en Allemagne, plutôt que les immigrés qui allaient vers les États-Unis et qui fournissaient aussi des troupes pour la mafia. Bon, ça, il faut bien le reconnaître. Mais ce qui est quand même assez important est de rappeler que les gouvernements précédents, de Renzi notamment, avec son ministre de l'Intérieur, à l'époque, il ne clamait pas sur les toits qu'il fallait arrêter les flux d'immigration, mais ils s'y attelaient. En fait, ils ont trouvé pas mal d'accords avec les bandes libyennes qui contrôlent le territoire de ce pays, pour bloquer l'immigration, pour instituer en Libye des camps de rétention dans des conditions absolument effroyables. Il y a eu quelques films et plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus. Et c'est aujourd'hui M. Salvini qui, en montrant les muscles, ne fait que récolter les efforts qui ont été déployés par les gouvernements précédents.
Les efforts, non?
Les efforts pour contenir les entrées disons, illégale, les entrées des réfugiés, les entrées de ceux qui arrivent à traverser la mer et qui sont tout simplement bloqués ou renvoyés parfois vers la Libye, ou qui doivent chercher des portes d'attache, comme c'était le cas de l'Aquarius et d'autres bateaux, qui n'ont plus la possibilité de débarquer en Italie. Mais tout ça se produit dans un contexte où le gros des flux ont été déjà taris, et où M. Salvini fait de l'exhibition musculaire face à quelques centaines ou quelques petits milliers d'immigrés, au moment où, et ça on a tendance à l'oublier, les médias italiens souvent l'oublient aussi, où durant la longue période de domination gouvernementale de la droite italienne, Berlusconi avec des ministres de la Ligue du Nord, ont en réalité effectuer des vagues de régularisation des étrangers illégaux sans papier présents en Italie et qui n'ont pas de pareil dans d'autres pays d'Europe. J'ai l'impression que le seul pays qui a eu des situations comparables est l'Allemagne, quand ils ont accepté d'un coup un million de réfugiés, un million d'immigrés. Mais le gouvernement Berlusconi, en 2002, il régularise presque 700 000 immigrés d'un seul coup.
Mais comment tu l'expliques ça? Parce que...
Et en 2009, il en régularise presque 300 000. Tout simplement parce qu'il fallait faire émerger le travail au noir, donc des gens qui ne payaient pas les impôts, en faisant du travail au noir. Donc, en les régularisant, il permet à ces immigrés de travailler à la lumière du soleil. Aussi parce qu'en partie, c'est sa base électorale qui, tout en étant parfaitement xénophobe, demande que cette régularisation. Et il faut se rappeler que l'Italie est un pays où il y a relativement peu d'assistance pour les personnes âgées. Il y a très peu d'EHPAD, et les EHPAD qui existent sont extrêmement chers et concentrés dans quelques grandes villes, surtout du centre-nord. Or, la solution qui a été trouvée pour s'occuper des vieux est, pour les familles, d'embaucher, c'était presque toujours au noir, des jeunes femmes qui venaient surtout des pays de l'Est ou des Philippines comme assistante à la maison, parfois comme employée de maison. Et ces femmes avaient beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à remplir leurs tâches ménagères quotidiennes. Elles ne pouvaient pas sortir faire des courses parce qu'elle risquait de se faire arrêter pour un contrôle.
Donc régulariser, ça permettait d'assainir cette situation.
Ça permettait d'assainir cette situation d'un côté, et une autre partie des ouvriers qui travaillent dans les grandes usines du Nord. Et il ne faut pas oublier que l'Italie est aujourd'hui en Europe le deuxième pays après l'Allemagne qui a encore une structure industriel de production et un pays producteur. Tout n'est pas encore délocalisé, même si la structure industrielle italienne reste composée essentiellement de petites et moyennes entreprises. Mais les jeunes Italiens n'ont aucune envie d'aller travailler en usine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On embauche des immigrés d'origine maghrébine ou d'origine africaine, de l'Afrique subsaharienne, et on a besoin de...
Pas seulement dans les usines, d'ailleurs, dans les champs.
Dans les champs.
L'agriculture, y compris au sud.
Oui, l'agriculture italienne, aujourd'hui, fonctionne justement parce qu'il y a des Africains qui font la cueillette des tomates, les vendanges, la cueillette des fraises et des autres fruits des différentes zones de l'Italie et souvent ils font des tours d'Italie selon les époques pour cueillir les fruits et permettre l'existence d'une industrie agroalimentaire actuelle.
Donc situation où...
Bon. Une situation qui est contradictoire, je dirais, entre les discours xénophobes et les exigences matérielles de la base électorale de la Ligue du Nord qui veut des immigrés, mais bon, qu'ils restent à leur place et qui, surtout qu'ils ne demandent pas des augmentations salariales, meilleures conditions de travail, etc. Donc, le discours xénophobe sert pour créer pour eux un climat d'insécurité.
Bon, on fait une petite pause là, hein, quand même. Allez, un peu de musique. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et nous discutons de la situation italienne. Bon, là, on a passé en revue pas mal de choses. Je pense qu'on va pas pouvoir parler non plus de tout. Moi, il y a une question sur laquelle, Gianni, j'aimerais bien que tu t'exprimes, si tu veux. C'est le succès de l'idée de revenu garanti prônée par le mouvement 5 étoiles qui explique en grande partie son succès électoral. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est quelque chose qui a encore une chance d'être mis en œuvre? Sous quelle forme?
Je pense déjà qu'il faut le mettre dans le contexte des promesses électorales aussi bien de la Ligue du Nord que du Mouvement 5 étoiles.
C'était une promesse du Mouvement 5 étoiles, quand même.
Oui, c'était. Oui, mais justement, il y a un partage des tâches, quelque part, entre les deux parties. Moi, je dirais que Salvini a pris la partie la plus simple, hein, l'ordre public, la lutte contre l'immigration illégale, où c'est plus facile de maintenir des promesses, parce qu'on peut montrer des muscles, on peut faire des actions d'éclat, comme ça a été l'histoire des bateaux qui ont été refoulés, des ports italiens, ou encore ce qu'on a appelé le décret sécurité, qui frappe les immigrés d'un côté, mais aussi les Italiens qui luttent, c'est-à-dire les squats, les blocages des routes, les chemins de fer, des manifestations, tout un tas de situations dont les peines ont été fortement augmentées et toute une série d'initiatives qui ont été criminalisées.
Donc le bâton pour Salvini, donc pour la Ligue, et maintenant le revenu garanti.
Oui, attends, juste encore une seconde, parce que c'est vrai que cette partie de la politique de la Ligue a comme cible les migrants, mais en même temps, et ça il ne faut pas l'oublier, Salvini essaye d'impliquer l'Union européenne dans la lutte contre l'immigration clandestine. Il lui a permis de cultiver des sentiments anti-français dans la population qui s'appuient quand même sur le fait que la France a refoulé vers l'Italie depuis le début de l'année dernière quelques 48 000 étrangers. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que il dit en gros, pour rendre acceptable pour les bonnes âmes, sa xénophobie, il dit finalement, l'Union européenne nous laisse tout seul, on est obligé, parce que on ne peut pas accueillir tous les étrangers qui arrivent sur le sol italien, il faudrait que les autres pays européens acceptent de prendre leur part de migrants, et notamment de réfugiés. Et la France, qui nous fait des leçons tout le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, non seulement il refoule des immigrés à Vintimille, notamment, mais aussi il y a des policiers français qui font carrément des descentes parfaitement illégales sur le territoire italien pour poursuivre des immigrés. Et tout ça est absolument inacceptable. Donc, par ce biais-là aussi, il flatte le sentiment nationaliste, indépendantiste vis-à-vis des autres pays européens et français en particulier.
Bon, est-ce qu'on peut en venir au deuxième volet de l'Alliance, à savoir le programme du mouvement 5 étoiles?
Le deuxième volet de l'Alliance est quand même la partie la plus difficile. Bon, c'est la partie économique et sociale, hein, qui relève aussi des compétences du chef de l'étoile montante du mouvement 5 étoiles, un certain Luigi Di Maio, qui l'amène à augmenter l'endettement afin de financer aussi bien les travaux publics que ce revenu de citoyenneté. Et ça aussi, ça le met en contradiction avec la doxa qui régit l'Union européenne. Alors, ce revenu de citoyenneté a une histoire assez bizarre, parce que il s'agissait de donner à tout le monde, de façon indépendante de toute autre considération, qu'il soit riche, pauvre, homme, femme, enfant, etc., chômeurs, travailleurs, mais assez rapidement, il est devenu un revenu minimum garanti, c'est-à-dire un subside,
un genre de RSA à la
française, un genre de RSA, oui, un peu à la française, pour ceux qui sont au-dessous d'un certain seuil de pauvreté, et ensuite est devenu conditionné, sous condition, pour les chômeurs et pour qui a un revenu très bas.
Attends, là tu dis il est devenu, il y a des mesures qui ont été prises, ou il
est devenu parce que il y a eu un long débat autour de ce revenu de citoyenneté, et le décret qui a vu le jour aujourd'hui n'est pas généralisé pour tout le monde, comme c'était le cas quand il y avait le mouvement 5 étoiles qui l'utilisait dans sa propagande électorale, mais il devrait prendre son début vers le mois d'avril. Il est question de donner 780 euros par mois pour ceux qui n'ont pas de revenus, ou une intégration du revenu existant jusqu'à ce seuil.
Qu'est-ce que tu veux dire, une intégration? Un complément?
Un complément, voilà. Ça devrait, pour des gens qui ont, par exemple, un petit revenu de 300 euros, on va leur donner 480 euros pour qu'ils arrivent tous. En fait, c'est un effet de seuil pour l'ensemble des minima sociaux. Il y a, par exemple, des pensions minimales qui sont portées à 780 euros par mois à partir du mois de février, et qui devraient atteindre 1170 euros pour un couple de retraités sans autres revenus ou avec des revenus inférieurs. C'est devenu un moyen de lutter contre la grande pauvreté.
Donc on est loin.
On est loin
de l'idée en elle-même du revenu universel.
Du revenu universel. Il y a un seuil de 9300 euros de revenus annuels, mais il ne faut pas avoir de compte en banque supérieur ou égal ou égaux à 5000 euros. Parce que sinon, rien. Pas d'une deuxième maison. Quelqu'un qui a hérité de la maison de ses parents et qui a déjà une maison de propriété, bah, n'a droit à rien. Si tu as une maison de propriété, eh ben, le seuil descend à 500 euros.
Je veux dire, si tu es propriétaire de ton appartement ?
Voilà. 500 euros au lieu de 780. Si tu achètes une bagnole, eh ben, il faut attendre la publication du décret et ses décrets d'application parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut avoir un minimum de 18 ans d'âge. Et surtout, il faut être résident en Italie au moins depuis 5 ans. Donc, il y a toute une énorme partie de la population immigrée qui est exclue de ce revenu. D'après les calculs des économistes, ça devrait toucher à peu près 5 millions de personnes à la louche.
Sur 60
Oui, sur 60, sur plus de 60 maintenant. Il a une validité de 18 mois et ensuite, il est, semble-t-il, renouvelable. Mais on ne sait pas encore très bien sous quelles conditions, comment ça se passe, etc. Or, ce qui est intéressant est que je te disais, il rappelle le RSA. D'un autre point de vue, on dirait qu'il rappelle beaucoup les lois Hartz IV en Allemagne qui ont amené au travail forcé pour les chômeurs parce que, évidemment, si on te propose un travail, eh ben, on n'a pas le droit de refuser. Il y a toute une série de conditions qu'il faut respecter. Il y a ça ressemble beaucoup à une simplification des allocations diverses qui constitue jusque-là le welfare assez misérable qui existe en Italie. Et ça n'a vraiment rien à voir avec le revenu garanti universel qui avait été imaginé par les différents gauchistes, les différents théoriciens gauchistes jusque-là.
Oui, et en plus, on lutte contre la grande pauvreté, comme tu dis. Mais oui. Si on regarde les seuils que tu cites, je veux dire, ça ne va pas éliminer la pauvreté.
Non, surtout pas. Et d'ailleurs, ils ne pensent pas qu'ils vont éliminer la pauvreté. Simplement, ils vont donner un complément de revenus pour que les gens ne meurent pas de faim. Et aussi, il y a d'autres éléments qui sont assez intéressants. C'est la façon de contrôler que ce revenu est entièrement dépensé par les chômeurs. Ils n'ont pas le droit de le thésauriser ou de le capitaliser.
Vous avez 700 euros et vous en mettez 200 de côté, c'est ça que tu veux dire?
Écoute, il y a certains villages du sud de l'Italie où les gens vivent aujourd'hui avec 400 ou 500 euros de retraite. Ils y arrivent parce qu'ils ont une petite maison qui leur vient de leurs ancêtres, et ils ont un petit jardin et quelques poules. Bon, ils arrivent à s'en sortir. Bon, ils sont dans la misère, mais ils arrivent à s'en sortir. Avec ce truc-là, on leur fournira une carte, une espèce de carte bancaire, sans doute distribuée par la Poste, qui a assez de guichets sur le territoire national. Et ils seront presque obligés de tout dépenser. Et j'ai lu un certain nombre d'éléments d'information. Je ne sais pas si c'est des spéculations ou combien c'est vrai, mais il y aura des formes de vérification sur les choses qui sont achetées. Par exemple, on ne peut pas acheter des clopes. Où il serait malvenu d'acheter de l'alcool avec ça, mais on doit acheter, je sais pas, des conserves. Donc ça ressemble beaucoup à certains programmes d'assistance à l'américaine où on te refile des conserves et avec des bons. Mais puisque maintenant tout est électronique,
ben oui, mais c'est justement ça, c'est le paradoxe, c'est que ce prétendu revenu universel, c'est en train de devenir aussi un moyen de contrôle supérieur de la population.
C'est ça qui est intéressant. Il y a un niveau de contrôle qui n'est pas seulement le gros bâton agité par M. Salvini, mais aussi le contrôle tatillon et qui arrive jusque dans les maisons des petits vieux. Qui est poussé par sous la vague de cette idée autrefois généreuse de revenus garantis.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.